Nous lisons dans la Bible quelques versets dans le livre d'Ésaïe, prophète, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Parole d'Ésaïe, fils d'Amoz, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem, dans la suite des temps. La montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Une multitude de peuples s'y rendra. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. » Il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre d'une multitude de peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière du Seigneur. Le second texte retenu est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, deux versets, 13 à 12. C'est difficile. Je lis à partir du verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain, et l'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et enfin, le texte sur lequel je m'appuierai davantage pour la prédication est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 37 à 44. Là aussi, je vais partir du verset 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Seigneur, ta parole nous conduit dans la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes heureux d'être dans une église qui laisse une place assez juste, me semble-t-il, aux traditions. Ainsi, comme je l'ai dit, entrons-nous dans le temps de l'Avent et nous avons placé une couronne sur la table de communion. Vous l'avez vu ou vous le verrez à la fin du culte, une première bougie est allumée. Cette bougie marque la première étape d'une intensité, une intensité qui va croître jusqu'au beau moment de Noël. L'éclairage progressif de la couronne par une deuxième, une troisième et une quatrième bougie me fait penser à certains psaumes de la Bible que l'on appelle les psaumes ou les cantiques des degrés. En effet, pour les Hébreux de la diaspora ou des confins d'Israël qui se rendaient à la fête de Jérusalem, on chantait en chemin la joie de la foi. Et on le faisait jusqu'au terme du voyage. Et plus on s'approchait, plus la ferveur devenait intense, jusqu'à éclater en louanges, dès lors qu'étaient atteints les escaliers du temple. Les escaliers du temple, les degrés. Les degrés qui conduisent jusqu'au Saint des Saints, lieu contenant l'arche de l'Alliance, considérée comme le haut lieu de l'incommensurable présence de Dieu. Alors ces bougies, déposées joliment sur une couronne, ont l'innocente prétention de dire qu'ici même, un peuple est aussi en chemin pour la fête au cours de laquelle nous célébrerons le don incroyable et merveilleux de Dieu parmi les hommes. Parce que, et vous le savez comme moi, le temps de Noël célèbre avant tout le temps des commencements. Noël, c'est un anniversaire, mais un anniversaire qui ne fait qu'un avec une attente, une autre attente non encore réalisée. C'est notre texte de Matthieu, l'avènement du Fils de l'homme. Alors, belle occasion ce matin de s'interroger, non pas sur la répétition de l'événement. Nous fêtons Noël année après année, et quelquefois on a l'impression de connaître assez bien l'histoire, mais de nous interroger sur cette étonnante réalité, j'allais dire de toutes les naissances, de toute naissance, toujours nouvellement porteuse de promesses. Comme d'ailleurs chaque disciple de Jésus est invité à faire l'expérience de la naissance nouvelle ou si vous préférez, de la nouvelle naissance. Le texte de Matthieu nous contraint à nous interroger avec les disciples sur l'avènement, c'est-à-dire sur le temps de la réalisation de la promesse. Car le petit enfant de la crèche, il est devenu le prédicateur itinérant que les disciples n'ont pas peur de questionner. Dis-nous quand la fin arrivera. Dis-nous quand aura lieu ton retour, toi qui annonces la fin de ton ministère parmi nous et ta mort prochaine. Dis-nous quand aura lieu la parousie, c'est-à-dire ton retour, toi qui dis que tu reviendras. Et il n'est donné aucune précision sur le temps, mais plutôt des allusions dans la Bible qui décrivent d'abord une parousie manifeste, si on va un petit peu plus avant dans le texte, au début du chapitre, avec un constat, frères et sœurs, assez redoutable. Quand sera la fin ? Eh bien, il y a une parousie manifeste. Quand sera la fin ? C'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira en raison des progrès de l'iniquité ou de l'injustice, si on préfère. Il y a un élément quasiment repérable. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Puis, à cette parole, tout de suite, est assorti comme un parallèle, j'allais dire un porte-bonheur à cette phrase redoutable et comme accroché. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc, dans un premier constat de la fin des temps, il y a un indice qui est celui du refroidissement général de l'amour, avec une promesse de salut pour les persévérants. En lisant les quelques versets dans Matthieu 24 tout à l'heure, nous avons entendu finalement une autre version ou une autre description de la fin des temps. Et c'est plutôt une parousie inattendue. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'ignorance, l'arrivée soudaine et inattendue, est quand même une menace qui pèse sur les humains. Parce qu'il est toujours lié à la parousie, au retour, à la fin des temps, il y a toujours une question qui est liée au jugement. Le jugement est lié au moment de la parousie, au moment de l'avènement, au temps de la fin. L'évocation de Noé, dans le temps qui précède le déluge, nous confirme qu'à cette époque, au moment où, obéissant à l'ordre divin, Noé construisait l'arche, rien ne signalait l'imminence du jugement du déluge. La Bible nous parle de bien des signes qui devraient arriver. On évoquait la perte de l'amour tout à l'heure. On nous parle aussi de bruit de guerre. Mais au fond, personne n'est véritablement averti. Pourtant, cet avènement du Fils de l'homme, au temps de la fin, apportera simultanément son retour, certes, mais aussi, ne l'oublions pas, un jugement immédiat, un jugement souverain. Et il n'y a aucun moyen qui semble laisser aux hommes de s'y préparer. Une proposition seulement. Seule est évoquée l'obéissance de la vigilance. D'ailleurs, si vous pensez à Noé, il construisait l'arche sur la terre ferme, peut-être, probablement sous le ricanement de ses contemporains, qui voyaient peu utilisable ce curieux bateau construit au sommet d'une colline. Alors, quelle est la question pour nous aujourd'hui ? Nous ne sommes plus au temps de Noé, Dieu merci. Mais comment construire la vigilance aujourd'hui? C'est peut-être cela la question. Que faire pour rester en état de veille, en attente d'un événement qui est promis? Et dans le texte toujours, il est dit, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, eh bien il aurait veillé, ou il veillerait. Et donc, par déduction, puisque vous ne savez pas le moment, tenez-vous prêt. Donc, la vigilance est apparemment d'abord un état d'alerte et d'attente du Fils de l'homme, c'est-à-dire notre Jésus. Mais la vigilance ne se borne peut-être pas à cela. Parler effectivement de vigilance, de veille, c'est une exhortation banale à première vue. Et c'est, diront certains d'entre vous, un conseil de piété qui ne mange pas de pain, comme on dirait familièrement. Que le pasteur recommande de veiller et de prier, c'est son travail. Qu'il prie et qu'il veille lui-même, c'est son ministère. Alors je veux bien que cela soit simplement une exhortation que l'on peut qualifier de catéchétique, mais n'oubliez pas l'importance que lui accordait Jésus à la nécessité de veiller et de prier. Ça semble banal et c'est l'essentiel de la vie de la foi. Mais ce qui m'étonne aussi dans le questionnement, c'est que Jésus fait un aveu d'ignorance. Lui qui a une prédication d'autorité, il ne répond pas à la question posée. Parce que les temps et les moments, ce n'est ni à lui, ni à nous de les connaître. Et il nous est demandé de n'entendre qu'une seule chose, c'est comment vivre l'attente. Comment analyser le comportement de chacun dans l'attente de quoi? Eh bien, du jugement. La parabole du maître de maison nous met sur la voie de comprendre qu'il y a un véritable danger, une menace. Si la faim surgit comme un voleur, dont on ne se doute en rien des agissements, et si le maître, ignorant son action, ne veille pas, eh bien, la dévastation aura lieu. Mais là, quand même, je vais mettre un bémol. Est-ce qu'on peut vraiment, logiquement, être constamment en état de veille, aussi bien dans une maison où l'on ne vivrait plus, mais pas davantage dans la vie spirituelle? En revanche, si l'on n'est pas dans l'attente, on s'expose à une tentation. La tentation de l'infidélité, la tentation de la violence, la tentation de la détresse et ce que cette parabole nous dit, c'est que la tentation ne nous menace pas en tant que nous sommes des pécheurs, ça vous le savez, moi aussi, mais la tentation nous menace simplement du fait que l'avènement du Fils de l'homme tarde à venir. Donc, on finit par ne plus y croire. On finit par ne plus l'attendre. Et ça, c'est la grave question qui devait se poser aux chrétiens des années 80, pas 2080, mais des années du début de l'Église, en 80, lors de la rédaction probable de notre Évangile. La foi au Christ Seigneur était en crise, elle était mise en doute par son retard à paraître. Et tout simplement, on ne l'attendait plus en profondeur. Or, toute l'œuvre de Dieu n'attend pas que les croyants accomplissent des rites, mais qu'ils gardent précieusement la capacité de l'accueillir dans leur vie. Ou mieux encore, ce qui correspond à cette pédagogie du temps de l'Avent, l'œuvre de Dieu pour le croyant, c'est qu'il se prépare, comme l'évoquait la couronne, à l'accueillir, ce Dieu parmi nous. C'est alors seulement quand cette disposition intérieure est réelle que Dieu peut accomplir son œuvre de salut. C'est alors seulement qu'il est possible de porter les fruits que Dieu veut. Certes, Dieu seul connaît les moments de la fin, mais c'est toujours aujourd'hui qu'il nous appelle à nous préparer. C'est peut-être pour cela, chers amis, quelle que soit sa forme, que le culte est toujours un événement unique. Le culte, qu'il soit le culte privé, personnel, ou comme aujourd'hui, communautaire, le culte est cet espace inouï où Dieu, en Christ, m'appelle par mon nom pour me relever de mes peines, pour corriger les violences qui me blessent et qui blessent les autres. Le culte est aussi le moment où l'amertume ou le chagrin que je traîne avec moi comme une boule dont je ne me rends même plus compte parfois, mais qui me ronge et qui barre l'horizon de la vie, peut être déposé. Voilà le culte. C'est-à-dire que se préparer à l'avant, accueillir Dieu dans ma vie, c'est savoir toute la capacité de cette fête de Noël à l'invention. Noël, c'est une belle invention. C'est l'invention de la liberté. Cette liberté en Christ qui nous conduit toujours à nous resituer dans le commencement. Parce qu'au lieu de se soucier, sans savoir comment l'attendre, de l'avènement, Noël nous redit qu'il faut retourner à l'origine, à la source de la révélation. Notre vie n'a pas une continuité forcément très logique. Mais vivre sa vie de chrétien, c'est trouver un style, c'est trouver une capacité d'invention. Non, nous n'avançons pas sur une ligne droite, dans une continuité logique, mais chacun de nous peut faire l'objet d'un retour à la source qui conduit à nous retrouver à un point plus avancé de la courbe de notre existence. L'invention de Noël, l'invention de l'Avent, c'est le retour à la source, c'est le retour à l'origine de la révélation de la foi, sans pour autant cesser de progresser. Et entrer dans le temps de l'Avent, c'est accepter, j'aimerais le résumer ainsi, de faire face. Et je me souviens très personnellement des mots d'un vieux pasteur, alors que je vivais, comme cela peut arriver à chacun de nous, une épreuve difficile dans ma vie, il y a des années. Vous savez, ces moments d'effondrement si douloureux qui prennent forcément individuellement des allures de fin du monde. Alors je confiais à mon vieux pasteur mon tourment. Et je n'ai eu de sa part ni pitié excessive par des paroles, pas d'apitoiement, pas de désolation compassée, pas de regret. Pourtant, il me semble qu'il avait tout compris. Il avait tout compris de ma peine, mais il avait compris aussi toute la force que Dieu nous réserve dans sa grâce, lorsque dans notre vie, avec sa joie ou sa difficulté insupportable, nous savons tout simplement revenir à la source. Mais vous voudriez savoir ce qu'a dit mon vieux pasteur ? Il m'a dit quatre mots, comme les quatre bougies. Il m'a dit simplement, il faut faire face. Il faut faire face. Faire face. C'est le résultat de l'attente. Parce que chaque moment, de notre vie est directement rattaché à cette source du don de Dieu en Christ. La question n'est donc pas tant quand viendra la fin, y compris la nôtre propre. Elle reste sans réponse possible. Mais la seule question qui vaille, chers amis, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est comme ça que chaque jour de l'année, on invente Noël. Amen.